Robert Castel, bonjour.
Bonjour.
On ne vous présente plus, vous avez écrit de nombreux ouvrages, vous êtes un des grands sociologues français, et en particulier vos travaux sur la question sociale font autorité, voire sont devenus des classiques. Je pense aux Métamorphoses de la question sociale, publié en 1995, ou encore à l'insécurité sociale, et plus récemment à la discrimination négative. Je crois savoir en outre que vous préparez un recueil d'articles, parce que vous avez écrit également de très nombreux articles sur ces questions ces dernières années. Alors, autant le dire tout de suite, nous ne sommes pas aujourd'hui devant vous des interlocuteurs impartiaux, puisque Nicolas Duvoux, ici présent, vous a aidé à documenter un certain nombre de thèses défendues dans la discrimination négative. Et moi-même, j'ai eu la chance d'être votre éditeur à deux reprises pour l'insécurité sociale et la discrimination négative. Ce qu'on voudrait aujourd'hui faire avec vous, c'est un petit peu revenir sur les grands concepts qui sont au centre de votre travail. Et on pourrait bien sûr évoquer la société salariale et d'autres idées. Il y a néanmoins un concept qui me semble tout à fait central dans vos travaux depuis les Métamorphoses, c'est l'idée de citoyenneté sociale. Est-ce que vous pourriez essayer de nous dire rapidement ce que vous avez mis sous ces mots ?
Ben, on pourrait dire que la citoyenneté sociale, c'est le complément de la citoyenneté politique, mais aussi ce qui a longtemps manqué à la citoyenneté politique pour avoir un contenu un petit peu concret. Bon, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la République des citoyens, a eu une application sociale, au fond, extraordinairement restrictive, c'est-à-dire qu'elle a laissé en dehors d'un exercice un peu complet et concret de la citoyenneté, une majorité de la population, et essentiellement les travailleurs, sous ceux qui n'avaient que la force de leurs bras pour vivre ou pour survivre. On pourrait dire, en caricaturant peut-être un petit peu, mais pas tellement, bon, la citoyenneté, ça a d'abord été la citoyenneté des propriétaires, c'est-à-dire qu'ils pouvaient asseoir leur reconnaissance et leur indépendance sociale sur la propriété, et c'est par l'intermédiaire de la construction de ce qu'on peut appeler une citoyenneté sociale que les citoyens non propriétaires, la classe non propriétaire dont on parle d'ailleurs au XVIIIe siècle avant même Marx, acquiert des supports, des droits qui lui permettent d'être reconnu comme citoyen, d'avoir une certaine indépendance sociale, de ne pas être dans la dépendance complète d'autrui, du besoin, etc. Et je crois qu'on peut appeler, d'ailleurs c'est pas moi qui ai inventé le mot, bon, citoyenneté sociale, ce versant donc de la citoyenneté qui se met d'ailleurs progressivement, très péniblement d'ailleurs en place, mais dont on peut dire que il a l'air de s'installer dans notre société dans la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, hein, en tout cas son développement positif, si je puis dire, c'est cette séquence historique, je crois, qui va de la Seconde Guerre mondiale au milieu des années 70 à peu près. D'ailleurs en France, mais je crois aussi avec des variantes nationales qui sont pas négligeables dans les principaux pays d'Europe occidentale.
Dans les Métamorphoses de la question sociale, vous avez décrit l'avènement de l'État social et donc d'une protection sociale un peu généralisée dont vous venez de retracer rapidement les contours. Et on pourrait se demander très brutalement, dans le contexte actuel, est-ce que vous pensez qu'on est sorti de cette société salariale, de cette société encadrée par un État social protecteur des individus ?
Je ne crois pas, enfin je me tromper, mais je me méfie des discours un petit peu catastrophistes du type tout fout le camp, l'horreur économique, etc. Je pense pas qu'on puisse encore, peut-être l'avenir ça viendra, mais d'un effondrement de cette société salariale et de ses protections sociales, je pense que on peut plutôt parler d'effritement, de fragilisation, en ajoutant d'ailleurs que on semble être dans un processus qui aggrave cette fragilisation de l'état social, des protections sociales.
Mais qu'est-ce qui s'est arrêté au milieu des années 70? Vous venez de décrire un processus dont vous avez dit jusqu'au milieu des années 70. Ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé au milieu de ces années 70?
Alors d'abord, on a parlé de la crise comme si c'était les chocs pétroliers, etc. Mais je crois que progressivement, et d'ailleurs on a mis du temps à s'en rendre compte, et d'ailleurs tout le monde ne l'a sans doute pas compris aujourd'hui, finalement que c'est un changement de régime du capitalisme. C'est-à-dire que vers, on ne peut pas dater à un ou deux ans près, mais enfin, disons, c'est devenu sensible à partir, je crois, du milieu des années 70, qu'on sortait du capitalisme industriel et des formes de régulation qui avaient été associées au capitalisme industriel, y compris ce qu'on a appelé le compromis social des années 60 à peu près, et qui assurait une certaine forme, d'ailleurs acrobatique, fragile, etc., mais un certain équilibre quand même entre les intérêts du marché, disons pour aller vite, la compétitivité, la rentabilité des entreprises et un certain type d'intérêt du monde du travail en termes de protection et de sécurité des travailleurs. Et c'est cette sorte d'équilibre, encore une fois un peu boiteux, mais quand même qui avait une certaine consistance, qui est remis en question. Alors, peut-être pas justement effondré, mais en tout cas, à mon avis, est incontestablement effrité par ce nouveau capitalisme. Alors là, on ne va pas faire la théorie, mais ne serait-ce que justement en faisant jouer le jeu d'une concurrence exacerbée au niveau de la planète, sous l'égide d'ailleurs du capital financier international, on comprend que ça puisse déstabiliser, prendre à contre-pied ces régulations sociales.
Vous diriez que, pour parler comme Polanyi, que vous citez d'ailleurs de temps en temps dans vos livres, la domestication du marché est redevenue un problème.
D'ailleurs, j'ai une grande admiration pour Karl Polanyi parce qu'il a très bien vu au moment de l'implantation du capitalisme industriel, la grande transformation que ça a entraîné, et peut-être que notre travail aujourd'hui, c'est, je ne dirais pas de faire du Polanyi, mais de comprendre, peut-être avec l'acuité et la précision de Polanyi, une grande transformation qui se produit au moment du déploiement de ce nouveau capitalisme.
Une des conséquences tout de même de cet effritement, vous ne voulez pas dire effondrement, vous cherchez toujours les mots les plus justes. Une des conséquences de cet effritement, c'est tout de même une transformation de la structure sociale de nos sociétés et l'apparition de quelque chose que vous avez appelé vous-même le précariat.
Oui, enfin, il y a évidemment cette grande transformation entraîne beaucoup de transformations, mais parmi celles-ci, il y en a une qui me paraît effectivement très importante, parce que le compromis social que je viens d'évoquer était largement fondé sur la consistance du statut de l'emploi. Et on pourrait montrer, si on avait davantage de temps, que c'était à ce statut de l'emploi qui passe par un emploi relativement assuré de sa durée, CDI, auquel sont accrochés justement des droits assez forts, droits du travail, protection sociale, que s'était construit ce système de protection, et y compris d'ailleurs cette citoyenneté sociale qu'on évoquait tout à l'heure. Et il me semble qu'un des changements fondamentaux, en tout cas essentiels, c'est un effritement ou une dégradation de ce statut de l'emploi. C'est-à-dire que le travail, les gens continuent à travailler, pas tous d'ailleurs, il y a évidemment le chômage, mais même justement, il y a aussi de nouvelles formes de travail qui sont en deçà de l'emploi. Et alors, on peut les appeler la précarité, mais je crois qu'aussi, là, au bout d'un certain temps, on ne peut plus considérer la précarité seulement, comme on l'a fait pendant longtemps, comme une sorte de situation un peu transitoire, un mauvais moment à passer, surtout pour les jeunes, ils essayaient 3 ou 4 boulots avant de trouver l'emploi durable, comme on dit. Il y a des gens qui s'installent dans la précarité, c'est-à-dire font succéder travaux précaires et travaux précaires, avec éventuellement d'ailleurs des alternances de non-emploi entre les deux, et donc il y a quelque chose là comme une condition, ou en tout cas une situation qui paraît justement s'installer dans notre société et qui est une manière de revivre peut-être au jour la journée, comme on disait autrefois, c'est-à-dire sans cet ensemble de garanties, de droits, etc. Alors bon, je ne veux pas dire que ce soit une tendance hégémonique, mais il me semble que c'est une des choses les plus importantes qui soit apparue et malheureusement je crois qu'il continue à se développer à travers justement cette, bon, disons pour aller vite, cette transformation du capitalisme. Juste un mot, parce que je pourrais dire, bon, ce nouveau capitalisme crée des richesses d'une manière assez fantastique, hein, et d'ailleurs des riches qui deviennent de plus en plus riches et même extraordinairement riches, mais il ne crée pas, proprement parler, du plein emploi. Et ça, ça me paraît important, c'est que même dans les pays où la dynamique de ce capitalisme est bien implantée, comme la France, l'Allemagne, il y a du non-emploi. Mais il y a donc, mais si ce capitalisme est incapable de créer du plein emploi au sens fort du mot emploi qu'on évoquait tout à l'heure, il est poussé par sa dynamique à créer de l'activité, parce que quand même la richesse, elle se constitue encore largement à partir du travail, mais donc il faudrait que tout le monde travaille. Et d'ailleurs, ça fait penser à quelqu'un, hein, que, voilà, et la France, ils se lèvent tôt, etc., que tout le monde travaille, et à la limite, on pourrait éradiquer le chômage, c'est pas un mythe, tout le monde pourrait travailler, mais à condition, selon cette logique du capitalisme, ben, d'abaisser les garanties, les droits qui sont attachés à l'emploi.
Il y a une catégorie qui est très importante, y compris dans les métamorphoses de la question sociale, mais encore jusqu'à vos travaux plus récents, c'est celle de risque social, comme si finalement l'avènement des protections ça avait été une manière pour les individus qui, comme vous disiez, vivaient au jour la journée, ben, finalement d'arriver, de parvenir à une gestion sociale et non plus seulement individuelle du risque. Et aujourd'hui, avec ce précariat que vous décrivez, on a le sentiment bah, qu'il y a un retour, le retour dans la société d'une population qui concentre sur elle, par sa vulnérabilité, par le type d'emploi, par le type de conditions de travail qu'elle a, un ensemble de risques. Alors, est-ce que par rapport à cette situation qui est nouvelle quand même, par rapport à la société salariale ou à la société du plein emploi que vous décriviez dans la période antérieure, est-ce que par rapport à cette population, vous pensez qu'il faut maintenir, enfin, quelle est la pensée du risque qui, selon vous, permet de trouver, sinon un nouveau compromis, du moins une réponse à la multiplication de ces situations de précarité?
C'est vraiment une grande question et je n'aurais pas la prétention d'y répondre en quelques minutes. Mais d'abord, le diagnostic me paraît tout à fait juste, c'est-à-dire que cet état social classique qu'on a évoqué tout à l'heure, bon, je pense qu'il a surtout fonctionné comme un réducteur puissant de risque, davantage d'ailleurs que le rôle redistributeur, qui n'est pas négligeable, mais encore plus, il a donné la structure d'une société assurantielle dans laquelle la plupart des gens était assuré contre les principaux risques sociaux, la maladie, la vieillesse impécunieuse, l'accident, etc. Et c'est vrai que c'est ça qui se délite quelque peu, pas pour tout le monde, mais en particulier, d'où votre question, pour ceux qui donc ont perdu bon, ces couvertures de risques. D'ailleurs, ils étaient couverts, d'ailleurs je pense que le mot a une expression très significative, contre ces risques, par l'intermédiaire de la stabilité de leur travail et du statut de l'emploi, comme on disait tout à l'heure. Alors là, eh bien, c'est une grande question, parce que justement, comment redresser ces situations. D'ailleurs, je pense que si quelqu'un le savait, ça se saurait. Hein,
ma question était un peu orientée, parce que dans l'insécurité sociale, le livre que vous avez publié en 2003, vous avez une critique de ce que la société assurantielle a produit, c'est-à-dire une forme d'aversion au risque, et d'une aversion peut-être excessive, comme s'il y avait les protections civiles et sociales avaient engendré chez les individus un besoin de sécurité qui était finalement assez fou.
En tout cas, impossible à satisfaire.
Oui. Impossible. Et est-ce que finalement, il n'y aurait pas, face à la précarité et aux situations de vulnérabilité extrême qu'elle peut engendrer, la nécessité de réévaluer la couverture des risques, justement, dans ce cadre-là?
Oui, mais c'est pour ça que je disais que la question, c'est une grande question, et donc elle est difficile, parce que je pense à la fois, mais ce n'est pas contradictoire, que l'homme et la femme, d'ailleurs, ont fondamentalement besoin de protection, et en particulier de protection sociale. Qu'un individu dans la société, ça ne tient pas debout tout seul, ça a besoin de protection, et de protection contre les risques. Donc, je pense que la lutte contre les risques, la couverture des risques, elle est essentielle. Simplement aussi, on a trop chargé, sans doute, la barque sociale, si je peux employer cette métaphore un peu naïve, de risque. Et je pense, par exemple, à la société du risque, du Risbeck, où, tout est risque. Et alors, il y a une espèce de cumulation des risques qui fait que, d'ailleurs, la conséquence de ça, c'est à la fois une peur et un désir éperdu de sécurité, de sorte que, aussi, il me semble qu'aujourd'hui, il faut faire un arbitrage entre les risques. On ne peut pas assumer, courir, ne serait-ce que parce qu'on n'a souvent pas les technologies possibles, parce que ça coûte cher, tous les risques qui peuvent arriver, y compris qu'un météorite nous tombe sur la tête avant la fin de cette émission. Donc, c'est pas la peine de mourir de peur. Donc, on ne s'occupe pas de ça. Mais de quoi s'occupe-t-on? Là, c'est difficile, mais de faire quelque chose comme des arbitrages, quand même. Et moi, c'est peut-être une sorte de déformation, je pense que les risques sociaux, c'est pas les seuls. Par exemple, le réchauffement de la planète, c'est aussi un risque extrêmement sérieux qu'il faudrait, je sais pas comment d'ailleurs, mais essayer de prendre en charge. Mais par exemple, le risque précarité ou le risque dépendance, par exemple, qui va devenir de plus en plus lourd avec l'allongement de la durée de vie. Alors, comme on peut pas tout faire, sans doute y a-t-il des choix à faire, mais alors c'est difficile, et d'ailleurs c'est plutôt de l'ordre du politique dans ce cas-là.
Oui, mais enfin, on peut pas se débarrasser de la question disant c'est dans du politique. Bon. Il y a tout de même quelque chose. Il y a, je trouve, dans votre œuvre des arguments qui pourraient permettre de hiérarchiser ces risques. Et notamment, j'en vois un, je vous le soumets. Est-ce que finalement les risques qu'on doit considérer comme prioritaires ne sont pas ceux qui affectent l'indépendance des individus? Ça m'amène à vous poser une question plus générale, et puis peut-être on l'affinera au cours de l'entretien. Mais souvent, le débat sur l'individualisme est un débat moral, qui ne se soucie guère de savoir quelles sont les conditions de constitution d'un individu. Or, dans vos travaux, vous montrez très bien que l'individu, si vous me permettez l'expression, est une construction sociale, qu'il est posé sur des étais, sur des supports. Peut-être qu'il faudrait revenir à ce point-là avant de poursuivre la discussion entamée.
Peut-être, oui. Je disais tout à l'heure qu'un individu, ça ne tient pas debout tout seul. Et que c'est terrible d'être un individu tout seul, d'ailleurs, et socialement. Je veux dire, par exemple, les vagabonds, c'était un pur individu. Ils ont eu un destin tragique. Le prolétaire du 19e siècle, c'est un individu, il n'a rien, il n'a pas de propriété, il n'a pas d'inscription, parce que c'est une sorte d'immigré de l'intérieur, etc. Donc ce qui donne consistance aux individus, c'est, je crois, effectivement des supports. J'évoquais tout à l'heure le support propriété, et tant mieux pour ceux qui l'ont, et ou ceux qui ne l'ont pas, c'est effectivement l'inscription dans des collectifs protecteurs. Et qui fait que, je crois qu'il y a, il est extrêmement naïf, effectivement, d'opposer l'individu et le collectif, parce qu'on peut montrer, en termes d'histoire sociale, que, justement, la notion d'individu s'est construite, ou en tout cas généralisée, à partir de l'appartenance à des collectifs, conventions collectives, garanties collectives du droit du travail et de la protection sociale, d'ailleurs avec le rôle de l'État social, dont on pourrait dire qu'il est le collectif des collectifs, c'est ça qui a donné consistance à ces individus, en particulier ceux qui étaient privés de la propriété. Et donc, effectivement, y compris ça a des implications, effectivement, par rapport à la thématique des risques, parce qu'on pourrait dire, effectivement, je crois que les risques les plus dangereux, ceux qui mettent en question, justement, l'organisation de la société, c'est ceux qui enlèvent aux individus ces supports qu'ils ont obtenus, acquis ou conquis, c'est une autre question, hein, mais qui leur permettaient cette indépendance sociale, c'est-à-dire ce type de risque. Ça menace à la fois la cohésion sociale, parce que, évidemment, s'il y a des gens qui sont complètement largués, qui sont laissés sur les bords, ils ne font plus société au sens un petit peu fort du mot, et puis les individus, ben, bon, ils n'ont plus non plus de quoi conduire leur vie avec ce minimum d'indépendance. Nous, par exemple, le thème, je sais pas, on reparle aujourd'hui, par exemple, des travailleurs pauvres, et en deçà même des travailleurs pauvres, il y a bon, tous ces gens qui sont dans la précarité extrême, bon, à la limite ceux qu'on appelle des exclus, même si on peut faire des réserves sur ce mot, mais enfin bon, et c'est un fait, je crois que les risques essentiels, ce sont justement les risques qui portent la menace de cette déconstruction de l'individu.
Il semble qu'aujourd'hui, pour revenir sur l'individualisme, on revienne à une forme d'individualisme, mais alors pour le coup vraiment négatif, si vous permettez qu'on emprunte une catégorie que vous avez formée, et vous avez parlé récemment d'un retour des mauvais pauvres, comme si certains individus dont on interprète les conduites comme celles d'individus rationnels, pour le coup, étaient à la fois capables de tenir un comportement, je veux dire, opportuniste par rapport à la protection sociale et en même temps flouer la société par ce comportement. Et on pourrait se demander peut-être quel est aujourd'hui ou qu'est-ce que vous envisageriez comme solution pour rebâtir un étayage positif du collectif et de l'individu dans une situation où les collectifs protecteurs de la société salariale, les syndicats, tous ces ensembles un petit peu larges, bah, sont en crise ou sont en voie, si ce n'est de disparition, au moins ont beaucoup plus de difficultés à aider les individus à construire des collectifs de soutien.
Oui, alors, bon, il n'y a évidemment pas de solution miracle et universelle. Je crois qu'un des fils, quand même, qui me paraît important et qui découle d'ailleurs un peu de ce qu'on a dit jusqu'à présent, bon, s'il est vrai que le statut de l'emploi, qui était un des socles, et même le socle principal de la construction de cette citoyenneté sociale, de cette indépendance de l'individu, s'effrite, se délite. Et, bon, d'une certaine manière, c'est sans doute irréversible. C'est-à-dire que s'il est vrai aussi qu'on ait changé le régime du capitalisme, on ne reviendra pas 20 ans ou 30 ans en arrière. Hein, si on ajoute aussi les mutations technologiques en cours, etc. C'est-à-dire que, par exemple, l'emploi, il est destiné, sans doute, à devenir plus mobile, plus discontinu, peut-être. Et alors, il me semble qu'une des réponses, hein, c'est pas... couvre pas tous les problèmes, sans doute. Ce serait, d'ailleurs, pas inventé. Il y a des gens comme Supio, comme Gazier, enfin, et comme la CGT, d'ailleurs, qui a un peu repris cette idée, je crois. Bon, ce serait, justement, bon, ne pas centrer tous les droits des travailleurs sur le statut de l'emploi, qui n'a plus cette consistance, mais de transférer sur la personne des travailleurs un certain nombre de droits et de protections essentielles, de sorte que le travailleur, au sens large du mot, d'ailleurs, l'employé, de toutes sortes, lorsqu'il serait en période d'alternance entre deux emplois, perdrait son emploi, ou qu'il aurait, ce qui deviendra sans doute de plus nécessaire, à se recycler un certain temps pour pouvoir assumer un nouvel emploi, bon, ben, il garderait des droits minimum, et qu'il faut espérer pas trop minimum, qui garderait au moins les conditions minimales de son indépendance sociale. Alors c'est une idée, je sais pas, on peut appeler ça sécurisation des trajectoires professionnelles, ou enfin, effectivement, d'ailleurs je crois qu'elle est discutée. Bon, je pense que c'est sans doute la CGT du point de vue qui a commencé à la reprendre. Je pense qu'elle intéresse les socialistes. Je crains aussi qu'elle intéresse, j'allais dire, d'autres segments de l'opinion politique. C'est pas que je crains, je demanderai pas mieux, mais c'est une notion effectivement qui peut être susceptible de bien des interprétations, et je crois l'interprétation que je défends, mais que ça, enfin je suis pas le seul heureusement, ce serait quand même que ces droits déplacé du statut de l'emploi ait quand même un minimum de consistance, que ce ne soit pas, par exemple, un misérable revenu de subsistance ou quelque chose comme ça.
Robert Castel, vous prêtez beaucoup aux transformations du capitalisme. On voit qu'elles occupent une place assez centrale dans l'analyse des transformations qui, depuis le milieu des années 70, ont conduit à notre situation. J'ai envie de me faire l'avocat d'un autre système de causalité qui s'ajoute, sans doute, qui n'est pas exclusif, qui s'ajoute à celui que vous décrivez, qui est un système de causalité plus technologique, plus technique aussi. La couverture des risques, elle est possible lorsqu'on peut former des classes de risques un peu homogènes, c'est-à-dire lorsque je veux bien donner à la solidarité parce que ça pourrait m'arriver à moi aussi, je pourrais être malade, etc. Dans un monde où on sait que certains individus ont plus de chances de développer certaines maladies, par exemple, ou plus de chances d'être exposés à tel ou tel type de comportement, soit par l'épidémiologie, soit par la génétique, soit par des disciplines parfois plus approximatives, les probabilités, la statistique, etc. Est-ce que le compromis social est aussi facile à réaliser ? Et j'ai le sentiment que c'est tout de même une autre difficulté qui ne vient pas des transformations du capitalisme, mais qui est tout à fait réelle.
Oui, mais d'ailleurs, je prétends pas tenir un discours universel, y compris sur la crise, les raisons de la crise, etc. Bon, j'ai peut-être la naïveté de penser que nous sommes dans une société capitaliste et que, justement, c'est quelque chose qui est quand même, c'est déterminant à un certain niveau. Et alors, je pense aussi que, bon, cette transformation qu'on évoquait, elle a eu quand même son épicentre dans le cadre du travail. Et on pourrait faire des analyses, mais ça n'a pas le temps, mais je crois un petit peu plus approfondies, que cette déstabilisation de la société salariale s'est faite justement autour d'une mise en mobilité du travail. Bon, mais, et alors, moi, si vous voulez, j'ai tendance effectivement à suivre un peu ce fil. D'ailleurs, je crois qu'il est assez gros, enfin, et même il ouvre des perspectives assez larges, mais sans prétendre qu'il soit exclusif. Par exemple, ce que vous dites, non seulement me paraît non seulement tout à fait acceptable, pas du tout contradictoire d'ailleurs, mais éventuellement complémentaire, mais c'est vrai que, bon, et c'est pas mon truc, d'ailleurs je l'avoue, du côté, je sais pas, le développement des nouvelles technologies, etc., il y a beaucoup de choses nouvelles qui se passent, que de toute façon, et si par contre, particulièrement lorsque l'on parle en termes de risque, il est certain que la pensée du risque, par exemple en médecine, par exemple, va bouleverser complètement la médecine. La médecine va devenir beaucoup plus prédictive, préventive, en prenant en compte les risques dont sont porteurs les individus. Je crois qu'il y a là une piste aussi qui est tout à fait importante. En ce qui me concerne, je ne l'ai pas emprunté, à la fois parce que sans doute je n'en suis pas capable et qu'il y a d'autres qui le font, mais je crois que c'est en tout cas pour le moins complémentaire de ce qui se passe, sur lequel j'insiste particulièrement autour des questions du travail et de la protection sociale.
Oui, c'est curieux parce qu'on pourrait dire que dans la période de vos travaux, de votre production intellectuelle qui est antérieure au cycle consacré à la question sociale, aux métamorphoses et à l'avènement de l'État social, on trouverait, notamment je pense à l'ouvrage que vous avez publié qui s'appelle « La gestion des risques », une analyse, non peut-être pas des évolutions technologiques au sens propre, mais de la technologie, de la technique de gouvernance des sociétés par la prévision des risques. Et du coup, on pourrait se demander qu'est-ce qu'il en est de notions comme, ou l'actualité de notions comme le contrôle social ou comme un certain nombre de notions que vous aviez appréhendées au travers de vos travaux dans le courant des années 70 peut-être.
Non, mais d'ailleurs c'est effectivement assez curieux et il y a beaucoup de gens qui me disent ça parce que bon, j'ai écrit effectivement en 1981 un livre qui s'appelle La gestion des risques et alors les gens me demandent ben voilà pourquoi pas continuer, enfin c'est la piste qui s'est ouverte et bon ben tant mieux si c'est ça ou tant pis d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça s'est aussi développé dans un sens qui peut avoir des conséquences au moins ambivalentes. Mais au fond, pour dire les choses très vite, moi j'avais abouti à cette idée de l'importance justement de profilage des populations à risque sur une réflexion d'ailleurs qui partait de la psychiatrie, de la médecine mentale, et qui était une réflexion sur le passage de la dangerosité au risque. C'est-à-dire qu'il y a des gens bon, qui sont ou qui paraissent dangereux, et il y a des technologies frustes à leur égard, du type l'enfermement. On enferme, on a longtemps enfermé les fous, on enferme d'ailleurs encore les criminels, mais bon, c'est quand même un peu, oui, j'allais dire un peu du bricolage, parce que il faut attendre, par exemple, que la crise de folie soit déclarée ou que le crime ait été commis. Et alors, si par contre, on se place dans une perspective préventive, bon, ben, il serait intéressant d'essayer de construire des populations susceptibles de produire du danger, d'où la notion de facteur de risque, et c'est effectivement ça que j'avais un petit peu déployé, et d'ailleurs, publié en 81, mais je pense que depuis, mais encore une fois, moi j'ai pas vraiment suivi cette piste-là, mais ce qui émergeait dans ces années-là, a cru et embelli depuis, pour le meilleur ou pour le pire.
Pour le meilleur ou pour le pire ?
Eh bien, j'allais dire, tout en n'étant pas normand, sans doute pour les deux. Hein, parce que, bon, on évoquait tout à l'heure, non, par exemple la médecine. Il est fort possible qu'une médecine, moi je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions, mais devienne plus efficace, hein, s'il est vrai que mieux vaut prévenir que guérir. Donc il peut avoir des applications, je pense, positives pour l'humanité, mais il y a aussi les usages. Bon, ben, je sais pas, la limite, ce serait Minority Report. Hein, et bon, alors il ne faut pas être paranoïaque, mais c'est vrai qu'il y a en tout cas quelque chose qui est, je crois, tout à fait inquiétant dans le développement de ces technologies de profilage des risques, etc. C'est fait par des experts qu'on espère compétents, peut-être avec des utilisations politiques qu'on espère aussi bienveillantes, mais on n'en sait rien. On ne sait pas qui ils sont. Hein. Ils construisent des modèles, des populations à risque, dont les effets risquent de vous retomber sur la tête un jour. Alors, je ne sais pas, le moins qu'on puisse dire, je crois qu'il faut sans doute éviter la paranoïa, mais qu'il y a au moins la question, ça pose au moins la question d'un contrôle un peu citoyen de ces technologies. Bon, qui fait ça ? Dans quel objectif ? Ça devrait être au moins objet de débat public, et il semble que ça ne le soit pas tellement aujourd'hui.
Si vous deviez répondre à la question, finalement, quel a été le fil de votre œuvre depuis les travaux sur la psychiatrie jusqu'à la discrimination négative, vous diriez quoi ?
C'est peut-être difficile. Moi, je dirais que c'est la curiosité. Et voilà, parce que... non, mais bon, c'est vrai que j'ai commencé à m'intéresser aux questions à la fois bon, psychiatrie, psychanalyse, médecine mentale. Bon, c'est pas d'hier, c'est-à-dire j'ai commencé ça au milieu des années 60. Bon, ce qui m'a intéressé, bon, c'est parce que peut-être que j'ai un goût pour les situations comme ça, un petit peu marginales, bon, où les choses ne sont pas complètement formatées, et puis aussi qu'il n'y avait pas dans ce domaine-là, j'allais dire, de doctrine, ou en tout cas, de sociologie, c'est-à-dire que mon premier projet avait été, disons, assez académique, bon, essayer de construire quelque chose comme une sociologie de la psychiatrie, de la médecine mentale, parce que, à part l'histoire de la folie de Foucault, mais qui était sur un tout autre registre, en France, et même d'ailleurs ailleurs, sauf Goffman, aux États-Unis, il n'y avait pas grand-chose. Donc j'ai bricolé là-dedans, parce que j'aime bien bricoler par curiosité, etc. Et puis c'est pour ça, d'ailleurs, qu'au bout de... je sais pas, d'une dizaine ou une douzaine, une quinzaine d'années ou plus de... je suis passé à autre chose, mais aussi, je pense, c'est pas une autre planète, parce que, bon, les questions, qu'est-ce que c'est que le social, qui était la question à laquelle je suis passé, si j'ose dire, eh bien, c'est aussi un objet fou, un objet polyvalent, il y a du travail social, il y a de la protection sociale, il y a des mouvements sociaux, enfin, qu'est-ce que c'est que le social? Alors, bon, ben, ça a un peu excité, justement, ma curiosité. Alors ça a commencé au début des années 80, et puis, bon, un peu comme ça, en bricolant autour de, réfléchissant autour de ces questions, en faisant des lectures, j'ai d'ailleurs cru découvrir que, pas tout, mais une part importante des questions sociales tournent autour de la question du travail. Et c'est pour ça que j'ai aussi, enfin, je suis entré dans le travail. C'était un peu ennuyeux pour moi parce que je suis toujours pas un sociologue du travail, etc. Mais il m'a semblé ce lien, mais je crois que j'y suis venu par, à la fois, je veux dire, par curiosité personnelle et puis aussi peut-être par goût, à la fois des situations un peu marginales, mais aussi des questions qui embêtent les gens. La folie, c'est embêtant. Il y a un romantisme de la folie, Artaud, etc. C'est, en gros, c'est pas vrai. Un fou, c'est quelqu'un qui est malheureux, etc. Il n'y a pas l'exalté. Bon, le chômage, la précarité, c'est des questions qui font problème, hein, aux gens. Et donc, il y a aussi le choix de ce qu'on pourrait appeler des objets problématiques, comme ça, à la fois du côté de leur consistance ou de leur inconsistance théorique, et aussi du côté de leur impact social sur la vie des gens.
Vous dites dans la discrimination positive, négative justement, vous dites malheureusement le malheur des hommes ne suffit pas à faire un problème social. Et on a le sentiment à vous entendre que la sociologie telle que vous l'avez pratiquée a consisté à aider le malheur des hommes à devenir un problème social, à devenir une question sociale. Vous épouseriez ce point de vue ?
Ben, j'allais dire, si c'était ça, tant mieux, c'est peut-être trop beau, sauf que peut-être que ça a contribué, mais en tout cas, je crois que ça peut être...
Pardon, Robert Castel, de vous couper. Vous comprenez que derrière ma question, il y a aussi une interrogation sur... la fonction de la sociologie, son utilité sociale, c'est une discipline qui a longtemps été liée à une utilité, sinon elle n'aurait pas valu 2 heures de peine, comme disait quelqu'un. Oui. Est-ce que vous croyez encore à cette utilité sociale de la sociologie ?
Bon, d'abord, je crois que la sociologie, si on veut être un petit peu sérieux, ça commence à essayer de faire des diagnostics un peu sur l'état de la société. C'est quelque chose qui est du côté de l'objectivité et du travail, sans croire à une objectivité absolue, etc. Cependant, je pense que quand on fait des diagnostics, enfin, qui sont aussi bien que possible, en mettant le terme en guillemets, ça révèle des choses, enfin, qui ne sont pas évidentes à tout le monde. Ou en tout cas, ça les conforte dans ce qu'ils ont pensé, peut-être un petit peu plus naïvement. C'est vrai que si on analyse le système, le fonctionnement de notre système social actuellement, eh bien, je vais m'exprimer très, très naïvement parce que nous n'avons pas le temps, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des riches qui sont trop riches, il y a des pauvres qui sont trop pauvres. Oui, je suis complètement naïf, mais je pense que ça pourrait quand même avoir du sens et être argumenté un peu plus sérieusement. Donc, ben, essayer de comprendre ça, c'est d'abord pour soi-même, d'ailleurs, moi j'aime bien essayer de comprendre les choses, et puis ça peut donner, alors je dirais pas des armes, le mot est trop fort, mais à des gens qui sont du côté de ceux qui pensent qu'il y a trop de pauvres ou que les travailleurs ne sont pas reconnus pour ce qu'ils font, du côté des syndicats, etc. Et je pense que de ce point de vue, effectivement, la sociologie, c'est pas un discours universel, que ce qu'on raconte, en tout cas moi ce que je raconte dans cette orientation-là, je pense par exemple que ça... peut-être avoir davantage de signification pour, disons, pour continuer d'être un peu simplificateur, du côté des syndicats des salariés que du côté du MEDEF. Enfin, c'est donc pourquoi c'est pas ce que je tiens. Je crois qu'il faut essayer de tenir les deux choses, c'est-à-dire on n'est pas un idéologue, on n'est pas un sociologue, n'est pas un intellectuel organique, comme on disait autrefois, en tout cas moi ça n'a jamais été mon cas, mais je pense que donc il doit partir d'un maximum d'objectivité, mais il n'est pas neutre, et la vie sociale elle n'est pas neutre non plus, on est dans... Il y a des conflits, il y a des trucs comme ça. Et puis, certes, bon, si les gens se servent de ce que je fais, eh bien, tant mieux. Mais au fond, c'est à eux, je crois, d'en juger. C'est pas à moi de leur dire, il faut faire ça dans tel registre, sur le registre politique ou le registre syndical, par exemple.
Il y a un objet parmi ceux au sujet desquels les sociologues ne peuvent pas être neutres, et c'est l'État. Et la question de son rôle historique, peut-être, entre les riches et les pauvres, d'ailleurs, comme vous, dans ce clivage qui se crée et qui se recrée. Et dans la discrimination négative, dans la conclusion, vous marquez ce lien presque personnel à l'État républicain. Et moi, j'aurais envie de vous poser la question, comment... en tant que sociologue, vous avez construit, déconstruit un rapport à l'État, et y compris d'ailleurs dans les travaux sur la question sociale, où on pourrait se demander si finalement un des apports de votre travail, c'est pas d'avoir à la fois montré et limité le rôle qu'a eu l'État dans l'histoire de cette transition vers la société salariale.
Oui, mais alors là, il faudrait effectivement des longs développements, mais je crois que l'histoire sociale montre, d'ailleurs, Marcel Gauchet, par exemple, dit à peu près la même chose, on ne peut pas penser l'individu sans l'État, hein, et que donc c'est la construction parallèle de l'État et de l'individu qui se sont montées à travers cette histoire sociale, et donc il n'y a pas d'individu sans État. Ceci dit, c'est pas, il faut quelquefois résister peut-être à des tentations qu'on peut avoir, peut-être que j'en ai eu un petit peu dans le sens, j'allais dire jacobin, c'est-à-dire
Je vous cite pour illustrer le propos, je prends le risque, en conclusion de la discrimination négative, je prends le risque d'avouer mon admiration pour les révolutionnaires qui ont construit le modèle républicain français. Ouais. C'est le début de la conclusion.
Oui, mais simplement c'est intéressant parce que je me fais pas mal disputer à propos de ce livre qui s'appelle « La discrimination négative » par des gens qui se veulent plus républicains que moi. Parce que je suis effectivement tout à fait attaché au modèle républicain, mais je pense que ça serait aussi sa fonction aujourd'hui, hein, de faire preuve d'un petit peu de souplesse, de capacité d'accueil, à l'égard, par exemple, de la question des minorités ethniques, parce que nous ne sommes plus dans une société mono-ethnique, à peu près mono-religieuse, mono-culturelle, comme c'était justement sous la Troisième République, par exemple. Et donc, à la fois, effectivement, et ça j'y tiens, j'allais dire, comme à la brunelle de mes yeux, oui, une référence à l'État me paraît incontournable, comme on dit, même si le mot est un peu suspect. Bon, mais il y a État et État. Et que, en particulier, que l'État ait à se réformer, qu'il ait à se décentraliser, qu'il ait à s'ouvrir à un certain pluralisme culturel, ça me paraît, un combat à mener pour qu'il fasse un peu sa mue ou sa mutation, mais que ce redéploiement de l'État ne soit pas un prétexte, comme il est dans l'esprit de beaucoup de gens, à un renoncement du rôle de l'État à certaines de ses fonctions essentielles. Bon, là, je crois qu'il y a un front, effectivement, de conflit. D'ailleurs, surtout, sur un plan qu'on pourrait dire idéologique. Et je crois que, d'ailleurs, on approche de la fin. Alors, peut-être que je vais faire une citation tout à fait ringarde. C'est-à-dire, il y avait autrefois, ou autrefois, on parlait de la lutte idéologique. Je pense qu'il y a toujours de la lutte idéologique, et qu'un sociologue, c'est à la fois effectivement quelqu'un qui essaye de faire, de pas inventer les trucs qu'il raconte, et donc d'avoir un souci de l'objectivité, mais c'est aussi quelqu'un qui prend parti dans la lutte idéologique, et donc qui n'est pas neutre.
Eh bien, je suis sûr que vous y tiendrez encore toute votre place dans les années qui viennent. Je voulais vous remercier, Robert Castel, de cet entretien, et vous dire à bientôt.